Saluton.
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 Saluton. Saluton.
Saluton, caraj geamikoj. Bonjour, chers amis. Je vous propose de retrouver aujourd'hui Ange, bavardant avec Christian et Rosemary, deux de ses élèves du vendredi après-midi à Trélissac.
Alors justement, pour vous, quels sont les avantages de l'espéranto par rapport à d'autres, aux autres langues ou à d'autres langues?
Ah, moi, il y en a au moins deux qui me viennent à l'esprit. C'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la facilité de communication avec des personnes de langue qui nous seraient totalement étrangères. Mais c'est aussi, alors, un point de vue plus politique, parce que je pense que la langue, c'est un outil de domination, et que donc cette langue internationale pourrait sans doute échapper à ce travers de des langues, des autres langues, et en particulier de l'anglais, par exemple. Mmh. Donc, voilà, ça me plaît bien.
Ben, c'est vrai que c'est une perspective intéressante, cette évocation-là, mais en même temps, derrière chaque langue, il y a un aspect marchand. Pour le moment, l'espéranto est une affaire de militants, mais il est à craindre que si elle devient vraiment une langue internationale, la langue internationale, ben, peut-être qu'il faudra qu'elle résiste elle aussi à la tentation impérialiste.
Alors, justement. Apprendre l'espéranto, pourquoi faire, d'après vous? Vous avez déjà un petit peu répondu, mais quels sont les objectifs qu'on pourrait avoir en apprenant l'espéranto?
Cette idée d'universalité.
Alors, ils peuvent être multiples, mais
oui, oui.
Pour vous,
mais
quels sont...
Affirmer un peu cette...
C'est une construction qui est élaborée à partir des analyses d'autres langues, oui. Des groupes linguistiques dominants, majeurs. Et donc, il s'agit d'une tentative de rationalisation. Et je trouve que ça, c'est intéressant comme démarche. Parce que c'est vrai que sans souhaiter la disparition de tous les dialectes, de toutes les cultures, ce serait vraiment très, très triste et sans doute très appauvrissant. Il n'en reste pas moins que l'élaboration d'un langage qui est à prétention universelle, comme on pourrait dire ça pareil de la musique, hein, ou du sport, mais bon, c'est un...
Alors vous avez tout à fait raison par rapport à ça, puisque actuellement dans le monde, les études disent qu'il y a environ 6600 langues, environ. Mais il y a des langues qui disparaissent.
Ah oui, tous les
ans, il y a des langues qui disparaissent.
Bien sûr.
Et c'est par rapport à ce que vous disiez, Rosemary, c'est la domination de langues puissantes avec des pouvoirs économiques importants qui font que des petites langues disparaissent. Alors que bien chacun sûr. Pourrait garder sa langue maternelle, même s'il n'y a pas beaucoup de locuteurs, de gens qui la parlent, et avoir une langue commune pour pouvoir échanger. Et cette langue commune ne peut être qu'une langue qui n'appartient, enfin, où il n'y a pas de natif, qui n'appartient pas à une nation, puisque bon...
Ce n'est pas une langue maternelle.
Et un État et une nation, tout à fait.
Actuellement, l'anglais qui occupe ce poste de langue internationale, les Anglais sont avantagés par rapport à nous, par rapport à tous les à tout le reste du monde, puisqu'ils n'ont pas à l'apprendre. Voilà. Alors que sur l'espéranto, chacun fait un effort, comme on dit, et on apprend une langue avec laquelle on peut discuter.
Ce qui va tout à fait dans votre sens aussi, c'est que par exemple, une de nos petites filles apprend l'occitan. Et
oui.
Moi, je trouve que c'est très bien aussi.
C'est bien, bien sûr.
C'est les racines. Oui. C'est l'ancrage dans une région,
oui.
Mais après, il faut communiquer avec le reste du monde.
C'est
donc,
ça. C'est-à-dire, on peut très bien avoir sa langue locale, régionale, donc que ce soit l'occitan, le breton, le corse, le basque, peu importe. Au contraire, c'est un enrichissement. On peut avoir sa langue donc nationale, donc pour nous, évidemment, ce sera le français. Et après, une langue pour communiquer au niveau international. Et c'est le but de l'espéranto.
C'est vrai que c'est un idéal vers lequel il faut tendre. Et il y a bien des personnages importants qui qui essaie d'appuyer cette démarche, puisqu'il y a eu des hauts fonctionnaires ou de, même des hommes politiques. Oui. Je crois que Willy Brandt en Allemagne a été un militant du développement de l'espéranto, pas seulement lui, beaucoup d'autres. Sans
doute, oui, il y en a beaucoup d'autres, mais qui ne le disaient pas forcément.
Voilà. Donc c'est tout à fait souhaitable. Mais bon.
Alors qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs pour leur donner un petit peu envie d'apprendre l'espéranto?
Déjà leur dire que c'est très facile, je trouve. C'est-à-dire que c'est très logique, et contrairement à la langue française par exemple, c'est une langue, pour ce que j'en sais pour l'instant, qui n'a pas d'exception.
Oui.
La langue française étant au contraire s'illustrant par la quantité des exceptions à la règle. Donc, quand on a appris... enfin, il y a des bases, mais il me semble qu'après, c'est une question de pratique, mais...
Après, c'est comme toutes les langues, il faut pratiquer.
Voilà, il faut pratiquer. Oui. Mais
c'est vrai que
c'est la facilité qui me frappe quand même.
Oui, tout à fait. Il y a cette régularité. Il y a une règle qui s'applique. Il y a pas... Bon, vous l'avez déjà un petit peu vu, la conjugaison...
très simplifiée.
Est facile, voilà. Il n'y a, a pas d'exception.
Puis c'est la logique aussi qui me
oui.
plaît bien.
Il y a une logique dans la langue, oui.
Qui fait aussi que c'est un bon exercice. Nous sommes de jeunes retraités. Mais, qui fait que c'est un exercice mental intéressant.
Oui, tout
à
fait.
Parce que justement, c'est pas seulement de la mémoire, c'est de la mémoire plus l'exercice de la logique et de mécanismes dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Les racines sont quand même très proches des langues que nous avons tous apprises.
Les racines des mots.
Mots. Donc, ça facilite aussi l'apprentissage. Voilà, je crois que vraiment, par rapport à d'autres langues, puisque moi, en apprenant l'allemand, par exemple, qui est une langue difficile quand même sur le plan grammatical, et loin de la nôtre par les racines des mots, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une langue assez simple.
Christian, un petit mot ?
Oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est vrai que ma première langue étrangère, ça a été l'anglais, et j'ai souffert pendant 3 ans, au moins. Il m'a fallu 3 ans avant de franchir l'étape qui fait que bon, on arrive assez facilement à échanger, au moins de manière superficielle, avec des anglophones. L'espagnol a été beaucoup plus simple, parce que c'est vraiment une langue voisine de la nôtre. En plus, je parlais, j'étais élevé dans un milieu rural, on parlait soi-disant, enfin ce qu'on définissait comme étant le patois, qui était en fait un patois d'occitan. Donc il y avait beaucoup de points communs. Mais je crois que la difficulté vient... Qui est moindre que pour ces langues-là, vient simplement de la... Il faut absolument intégrer, mémoriser, ça c'est, pour moi c'est assez difficile maintenant, à mon âge, mémoriser rapidement les éléments de base.
Oui.
Mais ça c'est quelque chose que j'avais déjà observé avant. Je suis plus à l'aise dans la version que dans le thème, par exemple.
Oui, oui.
Donc, ça c'est des choses...
Je crois qu'on en est tous là quand même.
Mais ça c'est normal.
Je sais pas, moi j'ai connu des gens dont on disait qu'ils étaient forts en thème.
Oui, oui. Non, mais c'est toujours plus facile de comprendre une langue étrangère, de la langue étrangère au français, que d'écrire ou de parler dans la langue étrangère. C'est toujours plus difficile.
Peut-être.
Très bien. Bon, en tout cas, merci à vous.
Merci à vous, notre professeur.
Agvo della clara fonto, si tutte nuda banis sin, sed for blovis la vent sen honto, la vestoin del charma knabin. Al mi si signis pro pudoro, petis covru min per folioi de vit au floroi, jen per le cant, jen per lili. ci maldicis en ci poso, do corsageton faris mi el petaloi de unu roso, de unu roso, ne unu pli.
C'est Jacques Ivard qui vous chantait Brassens, dans l'eau de la claire fontaine, en aquo de la clara fonto. Retrouvons pour le cours d'espéranto trois de nos amis de Saint-Antoine d'Auberoche et de Limeira.
Saluton Dorothée.
Saluton.
Saluton Pierre.
Saluton.
Et saluton Didier.
Saluton.
Donc Didier de Limeira.
Yes.
Yes.
Voilà. Mi loggias en Limeira.
Mi loggias en Limeira. Tu habites Limeira. Nous parlerons de ton passé d'espérantiste, de ton expérience d'espérantiste à l'école primaire de Limeira avec
oui,
Jacques Ravary.
Pendant des années. Voilà, on en parlera plus tard.
D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, nous commençons la 9e leçon de notre Yunul Curso, le cours pour les jeunes, et nous sommes 4 jeunes ici, devant ce micro. Nous commençons par quelques mots nouveaux.
Tondilo.
Tondilo. Qui est tondilo?
Les ciseaux.
Très bien, les ciseaux. Et on remarque le suffixe ilo, qui signifie
l'objet qui sert.
L'outil.
L'outil, l'objet, ouais. Effectivement, donc dans le sens d'outil. Tondilo estas ilo por tondi. C'est un outil pour tondre. Ce ouais. sont les ciseaux, en fait, pour couper les cheveux, bien entendu, par exemple.
Cudrilo.
Cudrilo.
Qui est ça? L'aiguille.
L'aiguille.
C'est l'objet pour coudre.
Voilà, l'outil pour coudre. Très bien. Et pour coudre, Dorothée, on se sert aussi de...
Fadeno.
Qui est ce fadeno?
C'est le fil.
C'est le fil. Kai?
La bobeno.
Bobeno.
Bobeno, la bobine. Très bien. Alors maintenant, on va écrire, Didier, avec...
Pluma.
Plumo.
Pluma. Décidément. Avec plumo.
C'est vrai que...
Plumo.
Plumo. Oh, donc c'est un petit peu rétro, là. Avec une ouais. plume. On peut écrire avec une plume. Et également, on peut écrire ou dessiner avec...
Crayono.
Crayono, très bonne. C'est-à-dire...
Comment disait le style à Bill.
Un crayon.
Bill.
Alors
Scribo.
Scribilo.
Scribilo.
C'est un outil pour écrire. Et si on veut préciser stylo à billes, on va dire globe scribilo.
Globe scribilo.
Voilà, stylo à billes, globo étant un globe, une sphère. Ouais. Donc ici, une bille. Allumetto scatolo.
Allumetto scatolo.
Qu'est-ce que c'est?
Allumetto.
Une boîte d'allumettes avec des allumettes dedans.
Très bien, donc scatolo, c'est une boîte.
C'est une boîte.
Allumetto, c'est une allumette.
Voilà.
Allumetto scatolo, c'est une boîte d'allumettes. Le mot principal est à la fin, scatolo, c'est une boîte. Et une boîte de quoi? Allumetto scatolo, une boîte d'allumettes. Donc allumette est un petit peu la position de l'adjectif en étant placé avant le mot scatolo.
Voilà.
Alors, allumetto scatolo, on peut l'écrire avec un trait d'union entre les deux mots. On peut accoler les deux mots. Et on pourrait même dire allumette scatolo en faisant l'élision du O. Mais je pense qu'il vaut mieux prononcer tranquillement en prononçant ce O. Allumetto scatolo, notre interlocuteur comprendra mieux. Un autre outil.
Tranchilo.
Effectivement. C'est l'outil pour trancher, donc c'est un couteau. Tranchilo, c'est un couteau. Alors ensuite, un autre mot composé, Dorothée.
Ocul vitro.
Yes, ocul
vitro. Les lunettes.
Voilà,
oculo. Alors, oculo.
Oculo, c'est...
Vitro.
Les yeux.
C'est l'œil. Oui, ocul, œil, au pluriel, voilà. Les yeux. Et vitro.
C'est les verres.
C'est le verre, c'est la matière, le verre, vitro.
Oui.
Ocul vitro, c'est donc lunettes ou paire de lunettes. Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons également pipo.
Pipo kai cigaredo.
Cigaredo, voilà.
Cigaredo.
Donc, cigaredo, une cigarette. Pipo, une pipe. Okay. Voilà, donc pour les fumeurs. Et pour manger, un outil pour manger?
Forco.
Forco.
Une fourchette.
Une fourchette. Et puis un dernier objet, brosso.
Et l'avant-dernier, parce qu'il y a aussi le
casserole.
Casserole. Donc, brosso, une brosse, et puis
casserole, la casserole.
Une casserole, une très bien.
Une casserole.
Voilà, donc voilà quelques mots nouveaux. Mais en fait, dans cette leçon, on a quelque chose qui est très important en espéranto, c'est le fameux accusatif. Alors, commençons par un exemple. Si je vous dis « la cuniclo mangias la carotton », qu'est-ce que cela signifie ? « La cuniclo »
Le lapin mange la carotte.
Très bien. « Le lapin mange la carotte ».« La cuniclo mangias la carotton ». Et si je vous dis « la carotton mangias la cuniclo », est-ce que c'est quelque chose d'inhabituel ? Ou est-ce que c'est la même phrase ?
C'est la même phrase.
C'est la même phrase, mais...
C'est la même phrase.
C'est la même phrase. Et pourquoi c'est la même phrase ? Parce que en espéranto, on marque le complément d'objet direct en ajoutant à la fin...
Un N.
La lettre N, très bien. C'est ce qu'on appelle l'accusatif. Donc, je reprends la première phrase. La cuniclo mangias la carotton. C'est la phrase... Dans l'ordre ordinaire du français, sujet, verbe, complément. La cuniclo, le lapin, c'est le sujet. C'est lui qui mange. Mangias, c'est le verbe. La carotton, c'est le complément d'objet direct. Le lapin mange quoi ? La carotte. Et donc, les espérantistes ajoutent ce fameux N accusatif au complément d'objet direct pour le marquer, pour l'identifier facilement dans une phrase. Donc, si nous disons dans un ordre différent, mais en employant les mêmes mots, la carotton mangias la cuniclo, nous décrivons la même action. Ça n'est pas la carotte qui a mangé le lapin, rassurez-vous. C'est bien le lapin qui a mangé la carotte. On peut même traduire différemment en disant la carotte a été mangée par le lapin. Ou bien c'est la carotte qui a mangé le lapin. Toutes ces phrases décrivent la même action. Et sous forme interrogative, si je vous demande « Que mange le lapin ?»«
Qui on mangeas la coniclo ?»«
Qui on ?» Voilà, qui donc on. Il faut bien...
Donc il faut mettre le N.
Je l'ai entendu Dorothée, mais il faut bien le mettre en évidence. « Qui on mangeas la coniclo ?»« Que mange le lapin ?» Mot à mot, c'est « Quoi mange le lapin ?»« Qui on ?» c'est quoi ?« Qui on ?» c'est quoi en tant que complément d'objet direct. Donc, si je vous demande « qui on mangias la cuniclo », répondez-moi en un seul mot. « Qui on mangias la cuniclo ?»
La carotton.
La carotton. La carotton. Et vous avez mis, Didier, tu as mis le « n » dans ta réponse, alors qu'il n'y avait pas de verbe. Mais il y avait un verbe sous-entendu, c'était le verbe « manger ». Tu m'as répondu « la carotton » sous-entendu, « la cuniclo mangias la carotton ». Donc, même si le verbe est absent de la phrase, mais s'il est sous-entendu, eh bien, le complément d'objet direct doit porter cet accusatif, ce fameux N. Si je vous dis, par exemple, « saluton », il y a un verbe sous-entendu, « je vous donne mon salut »,« je vous présente mon salut », donc « saluton », il y a un N à la fin. « Bonan vesperon », »,« bonne soirée »,« bonsoir », là aussi, je vous souhaite une bonne soirée, etc. Voilà pourquoi beaucoup d'expressions courantes de l'espéranto portent cet accusatif. Un autre exemple, Pierre. Que mange Jeanne ?
Johannino mangias bonan chocoladon.
Ah, très bien. Dorothée, bonne volu traduki. Veux-tu bien traduire, s'il te plaît ?
Jeanne mange du bon chocolat.
Très bien, du bon chocolat. Et vous remarquez que l'accusatif est également présent à la fin de l'adjectif bona. On dit bonan chocoladon. Johannino mangias bonan chocoladon. Jeanne mange du bon chocolat. Didier?
Carlo trincas rujan vinon.
Pierre, pour traduire?
Charles boit du vin rouge.
Très bien. Charles boit du vin rouge. Quion Carlo trincas? Que boit Charles ? Réponse, Carlo trincas rujan vinon. Boit du vin rouge. Dorothée ?
Si montras lian casquedon.
Très bien.
Elle montre
oui,
sa casquette.
sa casquette. Oh, mais la casquette de qui?
La casquette à lui.
De lui.
De lui, très bien. Si montras lian casquedon, donc c'est Charles qui a une casquette, mm-hmm. et c'est Dorothée qui la montre. Donc, si montras kion, kion si montras, que montre-t-elle? Lian casquedon, sa casquette à lui. Rappelons que le possessif lia s'obtient en ajoutant simplement la lettre A au pronom personnel li. Si montras lian casquedon. Et que montre-t-il lui?
Que montre-t-il? Li montras sian stelon.
Yes, bonne.
Alors, lui, il montre son étoile à elle.
Très bien. Li est le sujet. Montras sian stelon, son étoile à elle. Sous-entendu, l'étoile de Johannino. C'est l'étoile verte, bien sûr.
L'étoile verte.
Si montras sian verdan stelon, on aurait pu préciser, c'est l'étoile verte de l'espéranto. Qui elle, li montras la stelon?
Li montras per la mano.
Li montras gin, il la montre per la mano, c'est-à-dire avec la main. Nous connaissons déjà un mot qui signifie avec, c'est...
Kun.
Kun, très bien. Mais ça signifie avec dans le sens de en compagnie de. Mi promenas kun mia edzino. Je me promène avec mon épouse. Tandis que Carlo montras per la mano, il montre au moyen de sa main. Avec sa main, bien sûr, comme on dirait en français. Mais l'espéranto distingue kun et per. Kun, en compagnie de. Per, au moyen de. On aurait pu dire également li montras per la fingro. C'est-à-dire avec le doigt. Alors, question pour Dorothée. Qui est estas la piro?
La piro estas en la dextra mano de Carlo. Li montras gin.
Très bonne. Alors, ma question, c'était qui est estas la piro? Où est la poire? Et Dorothée a répondu, Didier, la piro estas en la dextra mano de Carlo.
Eh bien, la poire est dans la main droite de Charles.
Très bien. Li montras gin.
Il la montre.
Voilà. Il la montre, gin.
Gin.
Le pronom personnel neutre porte aussi l'accusatif. Il la montre. Il montre quoi? Gin, c'est-à-dire la poire.
Qui est-ce? La flore.
Ah, donc on fait les questions et les réponses maintenant.
Où bon. Se trouve la fleur?
Où se trouve la fleur? Yes.
La floro estas en la maldextra mano de Johannino. Si montras gin.
Très bonne. Donc la question était qui estas la floro? Dorothée, la floro estas en la maldextra mano de Johannino. Bonvolu traduki.
La fleur est dans la main gauche de Jeanne.
Très bien. Gauche, donc, c'est le contraire de droite. Dextra, ça serait la main droite. Maldextra, c'est la main gauche. Si montras gin.
Elle la montre.
Elle la montre, sous-entendu, la fleur. Très bonne.
La riĉa sinjoro havas monon kaj belajn vestaĵojn.
Bonne. La riĉa sinjoro, Pierre.
Le monsieur riche.
Yes. Havas monon.
A de l'argent.
Très bien. Kaj belajn vestaĵojn.
Et de beaux vêtements.
Voilà, parfait. Et donc... Monon, accusatif, complément d'objet direct, et bella in vestajoin, de
pluriel et accusatif.
Voilà, très bien, tu as raison de le souligner. Donc, le J du pluriel se trouve juste avant la lettre N. Donc, bella, c'est l'adjectif beau ou belle. Mm-hmm. Bellaï, c'est le pluriel. Mm-hmm. Et bellaïn, c'est le pluriel, suivi de l'accusatif. Mm-hmm. Même chose pour vestajoin, les vêtements. Qui oli estas? Qu'est-il, ce monsieur, Dorothée?
Li estas commercisto.
Yes, bonne. Didier?
C'est un commerçant.
C'est un commerçant. Ou il est un commerçant, mais en français, on dit plus volontiers, tu as raison, c'est un commerçant.
Alors, commerzo, c'est le commerce.
Commerzo, yes. Et commercisto?
Commercisto, c'est celui qui fait du commerce. Ah.
Voilà, c'est un professionnel du commerce ou au moins quelqu'un qui commerce très souvent, mais en l'occurrence, c'est un professionnel. Li estas commercisto.
Li havas clientoin en la tuta mondo.
Très bonne. Li havas clientoin, Dorothée.
Il a des clients dans le monde entier.
En la tuta mondo, dans le monde entier. Voilà.
Alors, cliento.
C'est le client.
Le client, clientoi. Les clients et clientoin, les clients lorsqu'ils sont en accusatif.
Voilà, très bien. Bonne décomposition, Pierre.
La malriĉa signoro ne havas monon kaj portas nenion.
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 Bon. Voilà. La malriĉa signoro.
L'homme pauvre.
Oui, ou le monsieur.
Le monsieur pauvre, oui.
Viro pour homme, oui. Signoro plutôt monsieur. Ne havas monon.
N'a pas d'argent.
N'a pas d'argent, le pauvre. Kaj portas nenion.
Mais il ne porte rien.
Et ne porte rien.
Ah bon.
Et oui. Oh, il n'est peut-être pas tout nu, mais...
Mais c'est un monsieur très heureux.
En tout cas, il n'a pas de denrées précieuses dans ses mains. Je voulais faire remarquer qu'en français, on dit « il ne porte rien ». Il y a une double négation. Il y a le « ne » et il y a le « rien ». En espéranto, on dit « kai portas nenion » et « porte rien ». Voilà, il n'y a pas de la double négation en espéranto.
« Li vendas nenion ».
Il ne vend rien.
Il ne vend rien.
« Li havas amicoin en la tuta mondo ».
Il a des amis dans le monde entier.
Très bien. Ben, c'est une richesse aussi d'avoir des amis dans le monde entier.
Voilà.
Li havas amikojn en la tuta mondo.
C'est vrai, l'espéranto nous permet d'avoir des amis dans le monde entier. Je vous rappelle notre numéro de téléphone 05 53 54 49 71 ainsi que notre adresse courriel espéranto-périgord en un seul mot @yahoo.fr. À la prochaine. Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis.